6h, 8h.
Matin première.
Medical Fat.
Il est 7h12, une première en deux siècles. Après 30 ans de règne, l'empereur Akihito, 85 ans, abdique aujourd'hui pour raison de santé. C'est son fils, le prince Naruhito, qui va lui succéder demain. Pour parler des liens que nous entretenons avec le Japon, et puis pour mieux comprendre un peu la place de l'empereur au sein de cette société japonaise, je reçois Pierre Bonnels, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre de philosophie, section philosophie contemporaine japonaise à l'ULB. Vous êtes également traducteur. Vous avez vécu 7 ans au Japon, puisque vous avez fait des études à Kyoto. Quelle est la place de l'empereur du Japon dans la société japonaise ?
Dans le quotidien, ce n'est pas quelque chose qui, est tout le temps là, mais c'est quand même médiatiquement très présent. Donc, vous le voyez à la télé, dans tous les événements, les catastrophes naturelles qui, on le sait, au Japon sont assez courantes, hein, avec les tremblements de terre ou les tsunamis. C'est quelqu'un qui est proche de la nation. En tout cas, le dernier empereur avait cette personnalité-là d'être relativement proche de la nation.
Voilà. On dit que c'est quand même un dieu vivant.
Alors oui, donc ça c'est une image qu'on peut avoir provenant en fait du shintoïsme, mais pas de n'importe quel shintoïsme, c'est-à-dire pas d'un shintoïsme qui est je dirais local, mais plutôt une certaine forme de construction d'État qui a été construite avant-guerre en fait afin de donner les privilèges en fait à l'empereur comme dieu vivant, c'est-à-dire comme vraiment une personne qu'on pensait être un dieu. Mais cette image aujourd'hui est totalement, c'est réfuté, c'est plus accepté comme tel. Mais le symbole est là et resté dans la mémoire collective. C'est le shintoïsme a toujours et c'est une forme. On dit que c'est une forme d'animisme qui effectivement donne à penser qu'il est possible de voir des énergies ou des esprits dans un tas de choses, que ce soit des pierres, des minéraux, une rivière, mais aussi les êtres vivants, c'est-à-dire les êtres humains. Dans ce vase-là, l'empereur a été reconnu comme étant un dieu vivant.
Et qu'est-ce que ça dit de la société japonaise ? Il y a un dieu vivant, et puis en dessous, il y a quoi ?
Alors, en dessous, il y a, du point de vue juste shintoïsme, il y a énormément de dieux. Donc, il y a vraiment pléthore. Hein. On peut pas juste les compter, c'est impossible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le shintoïsme n'est pas spécialement... Une religion, si on peut appeler ça une religion,
une philosophie,
c'est un animisme, quoi, oui. C'est une manière de vivre, on va dire, proche de la nature, donc, proche, qui comprend le monde d'une certaine manière, on va dire, pour être plus précis. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il y a de tout, mais les dieux du shintoïsme peuvent être bons comme mauvais. Vous n'êtes pas assuré de... Généralement, quand vous faites des prières ou des choses occultes ou des rituels shintoïstes, c'est plutôt pour apaiser les dieux, afin qu'ils ne viennent pas trop vous embêter, que plutôt pour qu'ils viennent vous aider, en fait.
Mais qu'est-ce que ça dit du corps social japonais, de la population japonaise ? Il y a le dieu vivant, il y a tous les dieux autour, et puis en dessous, il y a quoi ? Une famille ?
En dessous, il y a une famille. Alors, donc, si vous voulez, il faut aller voir un peu dans les caractères. Par exemple, si vous prenez le principe de nation, qui chez nous est juste nation, au Japon, on écrit ce terme par koka. Koka, c'est un terme qui est composé de deux kanji différents, donc c'est les caractères chinois. Hein. Le premier, c'est pays, et le second, c'est famille, en fait, ou maison, si vous voulez. Donc, c'est un mélange entre la maison et la famille. Donc, la nation devient un état famille. Et au-dessus de cet état famille se situe l'empereur, évidemment. Donc, l'image, la symbolique, est quand même très forte, même si, de manière officielle, on sait très bien que l'empereur n'a aucun pouvoir politique. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir du côté, dernièrement, donc là, vous savez, quand on change donc d'empereur, on change d'air. Mm-hmm. Et afin, quand on fait cela, eh bien, on nomme l'ère avec un nouveau nom. La nouvelle ère, ça va être l'ère de Leiwa. en fait. C'est traduit par les termes harmonie ordonnée.
La belle harmonie.
Voilà, ou plutôt ordonnée en tout cas, on dit ordonnée parce que, enfin voilà, bon après on peut discuter l'exégèse, mais en gros, voilà, c'est l'harmonie ordonnée. Ce qui est intéressant de voir ici par rapport à cette symbolique, c'est qu'on voit quelque part, et alors c'est une interprétation qui a été lancée dernièrement par un chercheur de la Temple University au Japon, où on voit en fait un empereur qui essaye, et qui continue avec cette nomification, mais c'est quand même un nom qui définit tout un pays, hein, qui essaye, entre guillemets, de parler de paix ou de message de paix. Là où vous avez un premier ministre Shinzo Abe qui, bon, ben, qui est plus dans le conflit, on sait, il pose des actes qui sont parfois un petit peu complexes vis-à-vis de ses voisins directs. Et donc, là, on voit quand même un peu une symbolique qui, je trouve, peut parfois se refléter avec les positions, par exemple, qu'un souverain que nous connaissons bien, qui habite plus en Belgique ici, et qui prend parfois position en disant, en essayant de calmer les choses par rapport à des mouvances politiques qui agitent son pays et les gens qui habitent sous sa juridiction, on va dire. On sait bien évidemment, c'est symbolique.
Hein. Cette nouvelle ère va rythmer la vie des Japonais, hein, puisqu'à partir de demain, on rentre dans l'an 1 de la nouvelle ère impériale, l'harmonie ordonnée, à côté du calendrier grégorien. Les Japonais vont avoir des jours de congé. Donc depuis samedi, ils sont en congé.
Voilà.
Ils ont 10 jours de congé. Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que 45% des Japonais ne sont pas heureux après autant de jours de congé. Comment vous expliquez ça?
Ben, disons que le Japonais... C'est un être extrêmement social, en fait, beaucoup plus, moins identitaire et moins individuel que chez nous. Le cercle social dans lequel il évolue est très important, la notion de groupe, la façon dont on est positionné dans un groupe, et le regard empathique est peut-être beaucoup plus important que chez nous. Bien qu'évidemment, tout ça est sujet à controverse et à discussion. Mais il n'empêche que le Japonais est quelqu'un qui vit en fonction du groupe. Et comme il vit en fonction du groupe, il y a plusieurs groupes. Bon, il y a plusieurs groupes. Hein. Il y a le groupe de l'entreprise dans laquelle on travaille, il y a le groupe de la famille, il y a le groupe des cercles, on va dire, de sport, des hobbies, qui ne sont pas très courants au Japon, en fait. Mais vous avez également, de nouveau, ce qui rejoint le groupe général de la nation-famille, donc de la famille, vous voyez.
Oui.
Et là, vous avez donc ces cercles sociaux qui sont extrêmement importants dans la vie japonaise, où... voilà, quand vous avez un projet collectif, c'est ce projet collectif qui
prime
sur l'individu.
Vous avez vécu au Japon, c'est un pays lointain, mais qui parvient quand même dans des tas de domaines à nous influencer. Pourquoi sommes-nous fascinés par ce pays, par le Japon, et comment réussit-il à nous influencer ?
Je pense qu'une des raisons pour laquelle on est intéressé ou en tout cas surpris ou attiré par le Japon, c'est clairement un premier mouvement relativement humain qui est l'attirance de l'exotisme en général, suffisamment lointain que pour ne pas en avoir peur, hein, parce que c'est pas des, entre guillemets, des ennemis directs, mais suffisamment proche que pour pouvoir y accéder et avoir une certaine communication, hein, aujourd'hui, à l'ère de la globalisation, c'est vraiment quelque chose de possible. Donc je pense que ça se situe là, c'est-à-dire que on est attiré et en même temps un petit peu, enfin voilà, ça reste une vie étrangère et ça nous attire, quoi.
Voilà, un pays qui est même parvenu à installer un pavillon japonais au centre quasiment de Bruxelles.
Tout à fait, tout à fait. Mais ça, ce sont donc les relations très proches entre les familles impériales et royales chez nous qui sont bon connues. Je pense pas qu'il faille en parler beaucoup, mais c'est quelque chose qui, voilà, je pense que ça s'est retrouvé après du côté de notre imaginaire collectif européen. Comme je le dis, l'exotisme est quand même quelque chose qui nous influence. Après, il faut faire très attention avec ça.